anything they do.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 11 juillet 2023, en direct de Washington, Idrissa Seloudia, pour commencer les titres. Deux chefs du groupe État islamique au Grand Sahara arrêtés au Niger, près du Burkina Faso. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani plaide pour le retour du Mali dans l'alliance militaire anti-djihadiste de G5 Sahel que Bamako a quitté en mai 2022. En Guinée, reprise du procès de l'ex-dictateur d'Addis Camara après plus d'un mois de suspension. Soudan, l'armée boycotte des pourparlers de paix organisés en Éthiopie par les pays d'Afrique de l'Est. En Tunisie, mise à l'abri de centaines de migrants expulsés de Sfax vers le désert. Inquiétude des ONG pour d'autres. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, d'accord pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. L'alliance entame son sommet aujourd'hui à Vilnius, en Lituanie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Dans l'ouest du Niger, deux chefs du groupe État islamique au Grand Sahara ont été arrêtés début juillet lors d'une opération conjointe des armées nigériennes et françaises dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Burkina Faso et le Mali. Le point avec Nani Talani.
Abou Mariam, dit Zaïd, et Sita Ousseini, dit Loukoumane, sont deux chefs du groupe État islamique au Grand Sahara, activement recherchés, a affirmé une source sécuritaire nigérienne. Abou Mariam a été capturé le 6 juillet dans le secteur de Yatakala et Sita Ousseini le lendemain, près de Téra, deux localités proches du Burkina Faso. Il faisait partie d'un groupe de terroristes activement recherchés par le Burkina pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes. Au Burkina, la tête de Zaïd avait été mise à prix à 150 millions de francs CFA et celle de Loukoumane à 175 millions de francs CFA. Fin juin, au moins 7 terroristes ont été tués et une cinquantaine d'autres interpellés après le bulletin du ministère nigérien de la Défense. D'importantes quantités d'armes, de munitions, de motos et d'explosifs ont également été saisis, selon le ministère. Dans sa lutte contre les djihadistes, le Niger bénéficie du soutien de plusieurs pays occidentaux, dont la France et les États-Unis, qui ont des bases militaires. Quelques 1500 soldats français sont sur le sol nigérien.
Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a plaidé hier pour le retour du Mali dans l'organisation G5 Sahel, une alliance militaire anti-djihadiste avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger, que Bamako a quitté en mai 2022. Monsieur Ghazouani a estimé que ce départ et celui de la force française Barkhane, ainsi que l'éclatement du conflit au Soudan étaient, je cite, des événements regrettables qui ont perturbé le fonctionnement normal de notre organisation et accéléré davantage la vulnérabilité de notre espace déjà très fragile. Fin de citation. Il prononçait un discours à Nouakchott à l'ouverture des travaux de la 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, une plateforme de 27 partenaires bilatéraux et bailleurs créée pour mobiliser l'aide internationale en vue du développement de la région du Sahel. En Guinée, le procès de Moussa Dadis Camara, jugé pour un massacre commis le 28 septembre 2009, a repris lundi après avoir été suspendu plus d'un mois à cause de deux grèves successives, Nathalie Barge.
Ce procès était suspendu depuis le 29 mai, les avocats refusant de plaider pour ne pas avoir été payés. Il devait reprendre le 21 juin, mais avait été ajourné de nouveau après une grève des gardiens de prison. Les avocats menacent de continuer de boycotter le procès si leur problème de paiement n'est pas réglé au retour des vacances judiciaires. La cour a entendu lundi un accusé, le capitaine Marcel Guilavogui, ancien membre de la garde présidentielle et neveu de de Moussa Dadis Camara. Il a affirmé à la barre que ce dernier était le concepteur, l'ordonnateur et l'exécutant du massacre. « J'ai décidé de dire la vérité. Je pensais que le président Dadis allait avoir le courage d'assumer la responsabilité de ce qu'il avait planifié », a dit le capitaine Guilavogui, qui avait en novembre 2022 fait un témoignage contraire et disculpé d'Addis Camara. Ce changement de version a entraîné le retrait de sa défense d'un de ses conseils, David Beavogui. L'avocat a lu devant la cour un texte dans lequel il dit ne pouvoir défendre une chose et son contraire. Moussa Dadis Camara et une dizaine d'anciens responsables répondent depuis 2022 devant les juges de dizaines d'assassinats, violences sexuelles, tortures et enlèvements commis le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Au moins 156 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées et au moins 109 femmes ont été violées, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU.
Plusieurs centaines de migrants abandonnés dans une zone désertique à la frontière entre la Tunisie et la Libye après avoir été évacués de la ville de Sfax la semaine passée ont été mis à l'abri lundi dans des villes du sud tunisien. Mais les ONG s'inquiètent du sort de dizaines d'autres repoussés vers la frontière algérienne. La totalité des 500 à 700 migrants qui se trouvaient à la frontière avec la Libye ont été transférés ailleurs, selon Salsa Bil Chelali, responsable de l'ONG Human Rights Watch à Tunis. À la suite d'affrontements ayant coûté la vie en Tunisien, des dizaines de migrants avaient été chassés de Sfax, devenu le principal point de départ de l'immigration irrégulière vers l'Europe et conduit par les autorités, selon des ONG, vers des zones inhospitalières frontalières avec la Libye et l'Algérie. Par ailleurs, quelques 86 migrants, dont 6 femmes venues de pays d'Afrique subsaharienne, ont été secourus lundi à bord d'une embarcation au large de l'archipel des Canaries, ont indiqué les sauveteurs espagnols. Un avion envoyé par les sauveteurs avait initialement estimé que le nombre de personnes à bord de cette embarcation pouvait être d'environ 200 et qu'elle semblait donc correspondre à un bateau recherché dans la même zone après être parti du Sénégal il y a près de 2 semaines. Nous ne pouvons pas encore le confirmer à 100%, mais il est probable que cela soit la même, avait souligné Salvamento Marítimo, le service espagnol de sauvetage en mer, qui a finalement reconnu s'être trompé dans son estimation. L'armée soudanaise a boycotté hier des pourparlers de paix à Addis Abeba proposés par des pays d'Afrique de l'Est pour mettre fin à cette guerre qui ravage depuis 3 mois le Soudan. Michel Joseph.
Premier concerné et longtemps mis à l'écart par les médiateurs américains et saoudiens, les pays d'Afrique de l'Est tentent de reprendre la main. Le quartet de l'IGAD, composé du Kenya, de Djibouti, de l'Éthiopie et du Soudan du Sud, est présidé par le chef de l'État kényan, William Ruto, dont l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan dénonce la partialité. Par son communiqué final, le quartet déplore l'absence regrettable de la délégation des forces armées soudanaises, bien qu'invitée. Le général Mohamed Hamdam Daglo, chef des forces de soutien rapide, avait envoyé son conseiller politique à Addis Abeba. Le quartet assure qu'il va poursuivre ses efforts pour avoir une rencontre face à face avec les chefs des deux parties belligérantes. Le quartet les a de nouveau appelés à un cessez-le-feu inconditionnel. Molly Fee, la sous-secrétaire d'État américaine pour l'Afrique, est aussi à Addis Abeba. Dans un communiqué dimanche, elle a appelé les deux belligérants à cesser immédiatement les combats. Mais les affrontements se sont continués jusqu'à hier à Khartoum, à Obeid et dans le Darfour.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné son accord pour soutenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN qu'il bloquait depuis plus d'un an. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg avant un sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie ce mardi et demain mercredi. Yacouba Ouedraogo.
Je suis heureux d'annoncer que le président Erdogan a accepté de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède au Parlement turc dès que possible et de travailler avec l'Assemblée pour garantir une ratification. C'est ce qu'a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance, après une rencontre avec le dirigeant turc et le premier ministre suédois, Ulf Kristersson. La Turquie souhaite que les États-Unis lui livrent des avions de combat F-16. Le gouvernement américain y est favorable, mais cela fait face à l'opposition d'élus du Congrès. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé un signal clair de la part des Occidentaux quant aux perspectives d'adhésion de son pays à l'OTAN. L'Ukraine mérite de faire partie de l'Alliance, pas maintenant car maintenant c'est la guerre, mais nous avons besoin d'un signal clair et ce signal est nécessaire dès maintenant, a déclaré M. Zelensky. Le président américain Joe Biden a salué lundi l'adoption par la Commission européenne d'un nouveau cadre légal permettant le transfert de données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Les agriculteurs ivoiriens soutiennent qu'un mélange de pluie et d'ensoleillement supérieur à la moyenne dans la plupart des principales régions cacaoyères de la Côte d'Ivoire la semaine dernière augure d'une bonne récolte principale d'octobre à mars, car le soleil augmentera les rendements, la taille et la qualité des grains après des inondations de fin juin. D'après les cultivateurs, le soleil est également bon pour lutter contre les ravageurs et les maladies provoquées par une humidité excessive du sol. Le groupe chinois CEMOC affirme avoir repris ses exportations de cuivre et de cobalt de sa mine TFM en RDC après avoir résolu son différend avec l'État. Les exportations de TFM, qui en 2021 fournissaient 10% du cobalt mondial, ont été interrompues en juillet 2022 après une querelle avec la société congolaise d'État GKMine au sujet du paiement de redevances minières. Le conflit a été résolu en avril. Terminons par la Tunisie qui suspend le paiement des salaires de 17 000 enseignants et licencie 350 directeurs d'école suite à des manifestations réclamant une augmentation de salaire, ont annoncé lundi les autorités. Cette situation pourrait affecter environ 30% des enseignants du primaire et aggraver le conflit avec le syndicat UGTT au moment où les Tunisiens sont déjà aux prises avec une grave crise économique. Tunis soutient que les finances de l'État ne permettent pas de répondre aux doléances des enseignants.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Afrocan, la Coupe d'Afrique des Nations de basket, se poursuit en Angola.
Oui, déjà qualifiée pour les quarts de finale, la République démocratique du Congo s'est imposée hier lundi 77-58 devant le Mozambique. Les Congolais, tenants du titre, avaient déjà bien entamé la défense de leur trophée par une victoire contre le Cameroun. Le Kenya est tombé face au Gabon 53-66, qualifié pour les quarts de finale. Le Maroc et la Tunisie se sont affrontés dans un duel nord-africain, soldé par la victoire des Tunisiens 67-52. Pareil pour le Nigeria et l'Angola dans un choc avec la victoire des Angolais 57-48. Certaines équipes sont d'ores et déjà out. C'est le cas du Rwanda, du Mali et du Cameroun.
Transfert, le président de Naples reste vague sur l'avenir de Victor Osimhen à Naples.
Victor Osimhen, tout d'abord, a encore 2 ans de contrat, de sorte que vous continuez à parler de renouvellement, ce qui alimente l'appétit de leurs acheteurs. Mais en réalité, c'est seulement à Naples de décider ce qu'il faut faire. Autant décider d'appuyer sur l'accélérateur, de le laisser jouer 2 ans et de laisser partir M. Osimhen avec 0 paramètre. A déclaré Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, en marge de la présentation du nouveau maillot de Naples.
Comme son père, Noah Fadiga, plombé par un problème cardiaque.
Le défenseur latéral bressois affirme qu'il ne peut plus jouer en France à cause de problèmes cardiaques. Des tests en fin de saison à Brest ont révélé qu'une irrégularité s'était produite dans mon rythme cardiaque, a expliqué sur les réseaux sociaux le joueur de 23 ans. Noah Fadiga ajoute qu'en raison d'une politique de zéro tolérance, la commission médicale de la Fédération française de football a révoqué sa licence française de football. Selon le jeune joueur, après des examens approfondis, le professeur Pedro Brugada, qui avait opéré son père du cœur en 2004, avait pourtant conclu qu'il pouvait poursuivre sa carrière sans aucun risque. Son père, Halidou Fadiga, avait subi un coup dur quand la découverte d'une arythmie cardiaque avait fait capoter son transfert à l'Inter Milan en 2003, opéré deux fois du cœur en 2004, avec en particulier la pose d'un défibrillateur automatique. Il a continué à jouer en Angleterre, puis en Belgique jusqu'en 2011.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis près de 14 ans, a annoncé dimanche qu'il sera candidat à un troisième mandat à la présidentielle du 26 août. Il fera face à une opposition très divisée. La campagne électorale officielle va s'étaler du 11 au 25 août à minuit. Pour une analyse, Eric Manirakidza a joint à Libreville Marc Ona, membre de la société civile et secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest.
Ben, je voudrais d'abord dire que la candidature d'Ali Bongo ne surprend personne, dans un premier temps. La deuxième chose, Ali Bongo est en otage de ceux qui profitent de son état pour piller le pays. La troisième chose, je pense que si Ali Bongo était encore maître de lui-même de ses décisions, il ne se serait même pas présenté. Ali Bongo n'est plus en capacité de gérer le pays. Alors, il promet le bien-être, mais je voudrais tout simplement rappeler qu'Ali Bongo vient de passer 14 ans au pouvoir. 14 ans, et c'est 14 ans de déclin. Il n'y a qu'à venir au Gabon où vous allez constater que quand Ali Bongo est arrivé en 2009, il y avait de l'eau dans les quartiers au Gabon. Il y avait de l'eau. Pour ne prendre que cet exemple de l'eau, revenez à Libreville, 3 quartiers sur 4 n'ont pas d'eau. N'ont pas d'eau. Je ne voudrais même pas parler d'infrastructures sanitaires et scolaires. Tout est dans un délabrement absolu. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit groupe depuis qu'Ali Bongo a eu son accident vasculaire cérébral qui s'est accaparé des ressources du pays pour piller, pas pour développer le Gabon. Depuis l'investissement d'Ali Bongo en 2009, le Gabon a eu des budgets que ce pays n'a jamais eu, l'un des pays les plus riches d'Afrique. Mais nous sommes aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs, l'un des pays les plus pauvres en termes d'indicateurs économiques.
Quelle est l'alternative?
L'alternative, c'est l'alternance au pouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on est condamné à avoir un Bongo à la tête du pays, même dans un état fébrile comme lui? Après son accident vasculaire cérébral, le pays n'est plus dirigé. Moi, j'aurais pensé qu'Ali Bongo, en termes d'orgueil personnel, pouvait au moins se dire, bah, écoutez, là, je vais me reposer pour continuer à me soigner. Il est affaibli, et tout le monde le sait. Et un cinquième mandat permettrait effectivement à ceux qui profitent de son état de continuer à mieux piller le Gabon, au détriment du bien-être des Gabonais.
Alors,
c'est pas mon analyse, c'est l'analyse de tout le monde.
Ça va être un scrutin à un tour, mais on sait que l'opposition s'avance pour l'heure en ordre dispersé. Est-ce qu'elle a une quelconque chance de rivaliser avec Ali Bongo, même dans son état actuel?
Ben, je pense que ce discours qu'on a toujours entendu quand il s'agit des élections en Afrique, l'opposition en ordre dispersé. Pourquoi dans les autres continents on ne sollicite pas une opposition unie pour affronter le candidat? Non, c'est pas parce que c'est l'Afrique où toutes les oppositions doivent se mettre ensemble pour affronter. On a eu en 2016 Ali Bongo a affronté combien de candidats? Aujourd'hui, la problématique au Gabon, aujourd'hui en Afrique, c'est la transparence dans le processus électoral. Si le pouvoir en place organise des élections dans de très bonnes conditions, de transparence, je pense que le problème que vous soulevez ne se poserait même pas. Les Gabonais choisiraient le meilleur candidat qui correspond à leur aspiration. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas les moyens qui font voter au Gabon en Afrique. Ce sont les méthodes d'organisation des élections qui posent problème. Et est-ce qu'en Afrique, au Gabon, on va organiser les élections transparentes? Oui, si on organise des élections transparentes, ben, le pouvoir en fait ne peut pas gagner les élections. Le challenge, c'est sur l'organisation des élections dans les conditions les meilleures et avoir des institutions républicaines.
Joint à Libreville, Marc Ona, membre de la société civile gabonaise et secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest. Une embarcation pouvant transporter environ 200 migrants a été localisée ce lundi au large des Canaries, selon l'ONG Caminando Fronteras. L'embarcation recherchée était partie le 27 juin de la localité sénégalaise de Kafountine. Deux autres embarcations parties du Sénégal le 23 juin sont aussi portées disparues avec environ 120 personnes à bord. Yacouba Ouedraogo a joint à Dakar Ibrahim Khalil Ouad, journaliste spécialiste des questions migratoires.
Toujours est-il que ce sont des jeunes Africains. Souvent, ce sont des Sénégalais, des Gambiens, des Maliens, des Sierra Leonais, des Guinéens. On y trouve pratiquement toutes les nationalités ouest-africaines. Et ce n'est pas une nouveauté. Depuis 2005, il y a toujours eu des embarcations qui ont quitté le sud du Sénégal, plus particulièrement la Casamance ou la Gambie. Et souvent, bon, ils quittaient depuis Elinkin ou depuis Bunkling pour essayer de rejoindre les côtes canariennes. Bon, parce que, comme vous le savez, les contrôles avec Frontex sont devenus beaucoup plus rudes et beaucoup plus difficiles. Donc, pour essayer d'échapper à ces contrôles, bon, les gens ont tendance à quitter depuis le sud du Sénégal.
Qu'est-ce qu'ils empruntent comme voie en quittant depuis le sud du Sénégal pour échapper au contrôle de Frontex?
Des fois, bon, ils peuvent rallier la Casamance à travers des bus ou bien à travers des véhicules. Et une fois sur place, bon, il y a des réseaux qui sont très bien organisés. Bon, ils savent où se rencontrer pour ensuite prendre ces embarcations de Frontex.
Ces embarcations, généralement, arrivent difficilement à destination. Il y a beaucoup de morts. Les mesures sont prises au niveau national. Je vais parler du côté du Sénégal pour empêcher tout cela. Et le phénomène persiste. Selon vous, comment il faut expliquer cela?
Le phénomène persiste parce que il ne faut pas perdre de vue que la jeunesse est de plus en plus désœuvrée. Bon, il y a une jeunesse sans espoir qui pense que l'avenir, voire le paradis, se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, c'est une fausse idée. Avec les contrôles qui sont de plus en plus difficiles, surtout au niveau de Dakar et de la petite Côte d'Ivoire et au niveau de Saint-Louis, bon, ils pensent qu'à partir de la Casamance ou bien à partir de la Gambie, bon, ils ont plus de chances de rejoindre l'Atlantique, de rejoindre les îles Canaries. Et nous sommes actuellement au mois de juillet, nous sommes en période d'été. Les conditions météorologiques semblent être beaucoup plus favorables pour ce voyage risqué, mais il n'empêche que le risque est toujours là. Les jeunes continuent de prendre ces embarcations en dépit des morts qui jalonnent leur route et ça devient vraiment un véritable problème politique qu'ils tâchent de régler. Sinon, bon, je ne vois pas de solution. Bon, empêcher les jeunes de prendre ces pirogues tant qu'il n'y aura pas de travail en Afrique.
Est-ce que c'est seulement le manque de travail qui fait que ces jeunes-là prennent le risque d'aller mourir en mer?
Non, c'est le manque de... Bon, quand on parle de problème politique, on manque d'espoir. Il ne faut pas se voiler la face, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Guinée, que ce soit en Gambie ou au Mali. Il faut reconnaître que beaucoup de jeunes Africains n'ont plus espoir. Ça, c'est une réalité. Et c'est ce manque d'espoir qui les pousse à tenter ce suicide. Parce que moi, j'ai toujours écrit et dit que, bon, vouloir relier l'Europe à travers des embarcations de fortune, c'est un suicide, qu'on le veuille ou non.
Joint à Dakar, Ibrahim Khalil Ouad, journaliste spécialiste des questions migratoires.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au moment où les membres de l'OTAN entament aujourd'hui leur sommet à Vilnius, en Lituanie, les États-Unis ont de nouveau justifié leur décision d'envoyer des bombes à fragmentation en Ukraine. Cependant, les chances que Kiev rejoigne l'OTAN de sitôt sont presque nulles, comme le rapporte Veronica Balderas Iglesias de VOA. Le récit est de Mohamed Humfa.
Les bombes à fragmentation peuvent tuer de façon aléatoire. Ils sont interdits dans plus de 100 pays. Mais alors que l'Ukraine est à court d'arsenal dans sa contre-offensive contre la Russie, les États-Unis ont finalement accepté de leur envoyer de telles bombes, selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, dans l'émission This Week d'ABC.
Nous enverrons ces obus d'artillerie supplémentaires qui contiennent des bombes à fragmentation pour aider à combler le déficit pendant que nous augmentons la production de 155 obus d'artillerie ordinaire.
Le gouvernement russe, qui a pourtant admis utiliser de telles armes dans les zones urbaines en Ukraine, a condamné cette décision. Les défenseurs des droits de l'homme ont souligné les dangers que représentaient les bombes à fragmentation pour les civils. La représentante démocrate Barbara Lee en a fait écho sur CNN.
Ils n'explosent pas toujours immédiatement. Les enfants peuvent marcher dessus. C'est la ligne qu'il ne faut pas franchir.
Interviewé sur ABC, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau souligné l'importance pour son pays de recevoir du soutien logistique international.
Les F-16 ou tout autre équipement dont nous avons besoin nous donneront l'occasion d'aller plus vite, de sauver plus de vies, de tenir bon pendant longtemps.
Zelensky a ajouté qu'il aimerait obtenir des garanties de sécurité claires de l'OTAN lorsque ses membres se réuniront à Vilnius en Lituanie. Pour sa part, le président américain Joe Biden a déclaré sur CNN qu'il y a peu de chances que l'Ukraine rejoigne l'OTAN de sitôt.
Je ne pense pas qu'il y ait unanimité au sein de l'OTAN sur l'opportunité d'intégrer ou non l'Ukraine dans la famille de l'OTAN maintenant, en ce moment, en pleine guerre. C'est un processus qui prend un certain temps pour obéir à tous les critères, de la démocratisation à une série d'autres critères.
Le représentant républicain Michael McCaul a exprimé un avis similaire sur CNN.
Ils ont démontré une volonté de combattre, une volonté de liberté et de démocratie contre la tyrannie et l'oppression. Je pense qu'ils méritent, mais il faut suivre la bonne voie et ne pas les intégrer immédiatement dans l'OTAN.
Des discussions sur la manière de rapprocher Kiev d'une adhésion à l'alliance militaire devraient avoir lieu lors du sommet de l'OTAN.
Merci, Mohamed. Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a achevé dimanche une visite de 4 jours en Chine pour tenter d'apaiser les tensions entre son pays et la Chine. Les relations s'étant dégradées ces dernières années, les deux parties ont discuté économie, ballons, espions et changements climatiques. Arash Arabassadi de la VOA fait le point. Le récit est de Lionel Gahima.
Une récente manœuvre d'un navire de guerre chinois dans le détroit de Taïwan, passant trop près d'un destroyer de la marine américaine que les États-Unis ont qualifié de dangereuse, a mis en évidence les tensions entre les deux plus grandes superpuissances du monde. C'est dans ce contexte que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s'est rendue à Pékin. Elle a rencontré les autorités chinoises pour discuter des questions comme le commerce, l'environnement et l'espionnage. Des progrès semblent avoir été accomplis, mais Mme Yellen a déclaré que les deux pays ont encore du chemin à faire.
Les États-Unis et la Chine ont des désaccords importants. Ces désaccords doivent être discutés clairement et directement. Le président Joe Biden et moi-même n'envisageons pas les relations entre les États-Unis et la Chine sous l'angle d'un conflit entre grandes puissances. Nous pensons que le monde est suffisamment grand pour que nos deux pays puissent prospérer.
Le voyage de Mme Yellen fait suite à un autre incident survenu au début de l'année avec un ballon espion chinois qui a survolé une grande partie des États-Unis et du Canada. Les États-Unis ont finalement battu l'engin, ce que le gouvernement chinois avait qualifié de réaction excessive. Ce sujet a été abordé par le nouveau vice-premier ministre chinois, He Lifeng, lors d'une réunion avec Mme Yellen la semaine dernière.
Il est regrettable qu'en raison d'une série d'incidents inattendus, tels que celui sur le ballon dirigeable, les relations entre la Chine et les États-Unis aient connu quelques difficultés, en particulier dans la mise en œuvre du consensus des deux chefs d'État. Nous souhaitons que la partie américaine adopte une attitude rationnelle et pratique, rencontre la partie chinoise à mi-chemin et traduise les remarques positives en actions afin de stabiliser et d'améliorer les relations entre la Chine et les États-Unis.
Janet Yellen a également discuté de ce qu'elle a appelé des lignes de communication honnêtes, notamment en ce qui concerne les questions climatiques. Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain, s'exprimant à nouveau depuis Pékin sur les propos rapportés par la Associated Press.
En tant que les deux plus grandes économies du monde, il est dans notre intérêt de travailler ensemble sur ces défis. C'est ce que le monde attend de nous. Le changement climatique figure en tête de liste des défis mondiaux. Les États-Unis et la Chine doivent travailler ensemble pour faire face à cette menace existentielle.
Les deux pays ne s'attendaient pas à une avancée diplomatique majeure. La visite de Mme Yellen s'étant déroulée dans un contexte de relations turbulentes. Le Wall Street Journal a rapporté le mois dernier que la Chine avait conclu un accord secret avec Cuba pour établir une station d'écoute électronique capable de recueillir des informations dans le sud-est des États-Unis. Et le président américain Joe Biden a récemment qualifié le président chinois Xi Jinping de dictateur, ce qui n'a pas arrangé les choses.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.